Tout de suite, Rhonda Sadaka, merci d'être là. Donc, un petit rectificatif, il faut se méfier de toutes les notices qui circulent sur Internet, elles véhiculent parfois des erreurs. Donc, Rhonda Sadaka, elle a un parcours entre les deux rives. Hein. Simplement, elle est née à Beyrouth, au Liban, et non pas à Paris, pour venir très tôt à Paris, à l'âge de 2 ans, c'est ça? Oui. Et elle a décidé, après avoir fait des études de droit donc, en France, elle décide de revenir à son pays d'origine, qui est le Liban, et de mener sa vie, et notamment sa vie professionnelle, donc à Beyrouth, où elle est une actrice très dynamique de la vie culturelle libanaise, et en particulier... On en parlera peut-être plus tôt demain matin à la table ronde. Oui. Elle est rédactrice en chef d'un magazine culturel qui s'appelle Pictorame, qui est un très beau magazine dont vous verrez des exemplaires demain. Par ailleurs, donc, Rhonda Sadaka a publié donc, un premier roman, roman-essai, c'est un peu inclassable, qui s'appelle « Nour en trombe et lumière ». Qui est paru chez un éditeur donc libanais, qui est les éditions de la revue phénicienne, et qui avait eu le prix France-Liban en 2014. Voilà. Donc, je laisse la parole à Rhonda.
Merci Dominique pour cette belle présentation. Du coup, pour revenir donc à ce premier roman, Nour en trombe et lumière, on peut souligner la couverture, hein, donc je vous la montre pour ceux qui n'ont pas vu encore, qui n'est pas anodine. Donc, il s'agit d'un magnifique nu de l'artiste peintre Martha Harry. Et c'est un pastel nommé Évasion pour une héroïne qui affronte un retour aux sources agité. Donc de Paris à Beyrouth, un monde sépare les deux capitales et un impératif passage en terre natale s'impose selon la thèse suivante. La culture reste une alternative au sentiment d'appartenance nationale. Tractation et manipulation se confrontent à la légèreté dont la société libanaise sait faire preuve. Le libre arbitre, l'art sont les fils conducteurs de valeurs universelles que l'héroïne traque dans ce paysage familier. Donc formée à Paris, une jeune juriste, Nour, dont le prénom signifie lumière, est employée dans un cabinet de droit dont l'associé fondateur est l'un des plus talentueux avocats du barreau de Beyrouth. Nommé garde des Sceaux, cet exigeant collectionneur dont l'art est l'obsession entraîne sa subalterne dans les coulisses du pouvoir. Donc le pouvoir, justement, la liberté des mœurs, l'art sont les fils conducteurs de ce récit où l'héroïne fait le procès d'une société à laquelle elle s'identifie mais qui n'évolue pas assez vite à son sens. La préface, signée Bahja Treze, attachée culturelle à la délégation du Liban auprès de l'UNESCO, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un très grand auteur par ailleurs, anthropologue, souligne l'authenticité du texte, qui oscille entre le roman et l'essai pour un genre expérimental un peu inédit. Issu d'un courant littéraire déconcertant, cet ouvrage place la femme, et je sais qu'il y a eu des questions à ce sujet hier, au cœur de la société, en appelant de ses voeux un éveil des consciences citoyennes. Donc entre les sociétés occidentales, je crois qu'on est en plein dans le sujet, qui privilégient les libertés individuelles et les pays orientaux où l'harmonie communautaire prime vraiment, le Liban est un peu schizophrène, je crois, et il se situe à la frontière des deux, donc il crée un véritable dilemme identitaire pour ces exilés. Et j'ai employé le terme exilé, justement. La littérature que je défends, c'est une littérature à part, en fait, parce qu'elle relève en même temps du roman et de l'essai. Donc l'emprunt à deux genres différents peut paraître risqué, donc c'est un choix personnel auquel le lecteur est libre d'adhérer ou non. Au-delà de l'histoire et des personnages, donc un vrai discours va se construire au fil des pages, des chapitres, c'est celui d'une Libanaise élevée en France qui rentre au Liban pour construire son avenir professionnel. C'est pas anodin. Elle va être quand même confrontée grâce ou à cause, c'est à vous d'en décider, de sa double culture à une multitude de difficultés de compréhension. Encadrée par deux personnages principaux hauts en couleur, donc on a Karim, un ami de son père, le grand avocat collectionneur, militant politique, qui la recrute justement, et Michel. Michel, c'est une galeriste française qui effectue des va-et-vient permanents entre Paris et Beyrouth. Et en fait, on en a beaucoup des galeristes comme ça en ce moment. Et puis ensuite, on a des personnages secondaires. On a Yves, qui est un journaliste militant pour la société civile. Nicole, la voisine qui veut absolument la marier à son fils, mais à tout prix. On a Jeanne, l'assistante soumise. Et on a Antoine, l'homme de main, opportuniste, mafieux, intrigant jusqu'au crime. Voilà. Donc tous ces êtres gravitent dans un espace de mutation continue. Nous avons donc une série de débats au fil des chapitres entre l'héroïne et elle-même ou avec d'autres personnages. Et donc elle se livre à des réflexions, des démonstrations, des plaidoiries passionnées autour de thèmes qui lui semblent essentiels. La structure romanesque, c'est donc un cadre choisi pour explorer des débats internes, existentiaux, sociétaux. Nour est prise au piège dans une société qu'elle aime et qu'elle hait en même temps, partagée entre son désir immédiat de changer les choses, elle est jeune, et son lien avec la pesanteur des structures dans lesquelles elle évolue. Nour incarne et porte donc le texte, et ce qui explique que l'ouvrage oscille entre une révolte constante et un réalisme contraint. Il illustre le point de vue interne d'une jeune francophone franco-libanaise qui est ancrée dans la réalité libanaise, mais qui conserve largement sa vision occidentale. Nour est très attachée aussi à un père absent, à une image de père absent, ce qui lui manque cruellement, mais on comprend pas, elle ne comprend pas vraiment cette société patriarcale, parfois misogyne, dans laquelle elle évolue. Le père, qui est ce personnage clé de l'histoire de Nour, aurait dû être là pour guider ses pas, mais malgré le fait qu'elle porte son nom, son histoire, elle n'accepte pas les codes qu'il n'a pas pu lui transmettre. Donc il la hante, elle sera fidèle à son souvenir, jusqu'à démasquer le système corrompu qu'il a éliminé. Donc toute la difficulté du texte, c'est de faire le procès d'une société à laquelle elle s'identifie, mais qui n'évolue pas assez vite. Donc après cette présentation brève de l'ouvrage, je vais aborder quelques thèmes avec vous, des thèmes phares du livre, le courant littéraire déconcertant dans lequel se place ce roman, la passion de l'écriture, le choc culturel entre Paris et Beyrouth, y en a-t-il un ? C'est toute la question. La crise identitaire des binationaux. Et ensuite, en fait, on va voir s'il est possible de vivre dans un pays dont on est si proche et si différent à la fois. J'aborderai rapidement aussi les coulisses du pouvoir politique, le statut de la femme au Liban, c'est important. Et surtout, le rôle de premier choix donné à l'art dans ce livre. Donc, pour ce qui est du courant littéraire déconcertant, c'est une littérature contemporaine, donc la littérature comme l'art contemporain ne saurait se réduire à une définition, une forme ou une problématique. Elle est au contraire traversée de multiples courants. Cathy, je parle sous ton contrôle. Donc on se souvient bien sûr que les auteurs du XXe siècle cherchent à se distinguer de leurs prédécesseurs, à s'affirmer tels qu'ils sont. Ils apportent d'importants changements en littérature, chacun son style, sa forme. On assiste à des nouveaux courants littéraires, surréalisme, André Breton, c'est pas très libanais, vous me direz, mais comme j'ai grandi en France, revendique donc les droits de l'imagination, plaide pour le merveilleux, le dadaïsme, qui se joue des convenances, des conventions, qui marque son extravagance. Et justement, les artistes à cette époque se voulaient un peu irrévérencieux, extravagants, donc c'est inspirant. La littérature du XXe siècle s'inscrit dans un siècle tumultueux, donc avec les deux guerres mondiales, évidemment, l'expérience de totalitarisme, fasciste, communiste, une décolonisation difficile, dont on porte les traces encore au Liban. Donc le monde, finalement, a repensé autrement. Bon, ceci étant, c'est bien aussi de noter qu'à mesure que l'esprit remonte du présent vers le passé, la perspective devient plus nette. Donc les lignes se dégagent et les valeurs sûres s'affirment. Donc malgré toutes ces difficultés, la continuité littéraire du X siècle apparaît sous sa diversité, ça qui est intéressant. Et on constate des courants, la naissance de courants littéraires audacieux, en art aussi. Voilà. L'audace viendra aussi dans les années 20 avec le premier anti-roman d'André Gide, hein, l'écrivain français des Faux Monnayeurs. Bon, pour revenir à cette distinction de littérature contemporaine, il y a Dominique Viard, qui est critique littéraire et professeur de littérature française à l'université Lille 3, qui a une très belle définition de cette littérature contemporaine qu'il place en trois segments. Donc il y a la littérature consentante, donc c'est l'imagination romanesque, la littérature concertante, qui serait un peu dans le bruit du moment, les clichés, les scandales calibrés, et la littérature déconcertante, justement, qui déplace l'attente échappe aux préconçus et aux prêt-à-penser culturels. Donc l'enjeu ici, c'est de déranger les consciences, tenter de dire ou de signifier le réel. Voilà. Donc pour ce qui est de ma passion pour l'écriture, je dirais qu'on partage tous, enfin on est nombreux à partager cette passion. Simplement pour avoir grandi en France, on est un peu élevé au biberon, donc on a beaucoup de facilité à lire, à écrire. Et quand je suis rentrée au Liban, c'est juste à ce moment-là que j'ai voulu mettre ma plume au service de mon pays, donc du Liban. Pour en revenir au choc culturel maintenant de Paris-Beyrouth, existe-t-il ? C'est la grande question. Alors Nour incarne à elle seule toute la difficulté d'être pour une certaine génération de Libanais ayant vécu à l'étranger, à savoir comment naviguer entre deux cultures, l'occidentale et l'orientale, où se situe entre l'individualisme des grandes villes européennes et le confort douillet de notre pays d'origine. Le premier offre la liberté, certes, mais au prix d'une certaine solitude, parfois même d'une souffrance. Le second est beaucoup plus rassurant, douillet, mais il donne un droit de regard de la société sur nos faits, sur nos gestes. Donc d'autres, bien mieux que moi, traitent de cette question d'appartenance. Je vous renvoie à Amin Maalouf, dont j'ai parlé ce matin, avec les identités meurtrières. Du coup, l'identité est forcément complexe. Elle ne se limite pas à une appartenance, c'est plutôt une somme d'appartenance, plus ou moins importante, signifiante, qui font la richesse, la valeur propre de l'individu, qui rend finalement l'être humain irremplaçable, singulier. Mais cette identité, elle n'est pas innée, elle se construit, elle s'acquiert via des expériences, l'instruction, l'influence d'autrui et beaucoup d'autres éléments. Les déceptions morales, culturelles, gustatives que Nour vit au Liban ne sont pas surprenantes, puisqu'il parle à tous ces jeunes binationaux qui vivent forcément un certain déchirement identitaire. Le Liban en prend pour son grade au fil des chapitres. C'est le deuil, un passage obligé du pays fantasmé tel qu'on se le figure en tant qu'exilé. Donc tous les jeunes souffrent à des degrés variables, des mêmes entraves à leur liberté, qui sont de nature familiale, économique, parfois politique, sociale. L'équilibre entre soi et les autres est l'élément le plus difficile à déterminer, à créer, à imaginer. Donc plutôt que d'incarner une jeunesse désenchantée, inquiète du chômage, de la situation sécuritaire, en quête de repères, je pense que nous formons une génération en voie de transition, qui revendique en tout cas notre place dans une société qui ne s'attendait pas forcément à ce que nous formulions publiquement nos désirs, nos attentes, nos aspirations. Alors la grande question, est-ce qu'on peut vivre finalement dans ce pays dont on peut se sentir si proche et en même temps si différent ? Je pense qu'en tant qu'êtres sociaux, la société est en nous avec sa culture, ses lois, son langage, ses mœurs. L'être et la société sont toujours liés dans une relation complexe. Tout humain porte en lui le principe égocentrique qui le conduit à donner priorité à sa propre existence. Ce sentiment apparaît dès la naissance, se développe parfois au sein du berceau familial, s'étend plus tard aux notions de patrie, religion, parti politique, proche, être aimé. Le mouvement permanent entre le « nous » et le « je » peut nourrir l'inspiration profonde de l'individu, qui le conduit à s'épanouir sur un chemin particulier. L'une des clés des réussites de sa vie, c'est peut-être de s'illusionner justement le moins possible, d'accepter la complexité de l'être humain, de cesser de conceptualiser et de s'enfermer dans des certitudes. Donc pour éviter peut-être la dogmatisation, c'est-à-dire le durcissement de nos idées, on peut éventuellement s'abandonner à une rationalité ouverte qui permet d'accepter l'inattendu et d'engendrer une métamorphose construite sur un acquis culturel parfois commun et de l'histoire également, sans rupture, mais plutôt dans une harmonie transitoire, fruit des efforts de chacun. Ce que suggère très bien d'ailleurs Edgar Morin dans son dernier ouvrage « Pensée globale » que je vous recommande. Et les aspirations individuelles sont parfois très très loin de la réalité du pays dans lequel on évolue. Et je vais vous lire un petit extrait du livre qui illustre cela. Le contexte, donc on est dans une salle plongée dans la pénombre, et donc c'est un concert qui va avoir lieu avec un célèbre saxophoniste d'origine libanaise. Et donc ce soliste est reconnu donc à un niveau international et il prend la parole avant le concert. J'ajoute que c'est un extrait du livre avant la publication justement de Nour qui a été publié dans L'Orient le Jour pour un concours de bonnes nouvelles libanaises où en fait on invitait les jeunes à prendre la parole et à dire ce qu'on aimerait que le Liban soit, et donc c'est amusant. Voilà. Je suis si heureux, dit-il. Je suis si heureux d'être avec vous ce soir, et je vous remercie de votre présence, déclare le saxophoniste. Le dernier morceau que je vais vous jouer pour conclure ce concert est assurément l'un de ceux qui me tient le plus à cœur. Certains d'entre vous savent que j'ai résidé à l'étranger de longues années, que je suis installée à Beyrouth depuis peu. Précédant mon retour, cette mélodie est un hommage au Liban, une déclaration d'amour et de haine. Comment un pays que nous aimons tant ne l'utilise-t-il pas pour nous retenir ? Pourquoi accepte-t-il l'exil de ses enfants comme une fatalité ? Une relation saine se construit, se travaille et s'épanouit par la réciprocité. Notre patrie est indifférente à notre douleur, nous dédaigne, nous ignore avec une facilité et un naturel déconcertant. Parfois, dans un sursaut ponctuel de conscience, elle nous laisse entrevoir ce que pourrait être l'avenir en son sein, puis s'empresse de dissiper vigoureusement nos espoirs afin qu'ils s'envolent vers un horizon chimérique encerclé par un halo cynique d'incertitude. Affaiblie par cette lueur d'espoir, cette ultime confession, meurtrie par cette humiliation, nous partons. Nous regardons en arrière, espérant un signe, attendant un geste, souhaitant être retenus. Mais rien ne se produit. Le calme règne dans le chaos laissé en arrière-plan avec un insoutenable désintérêt. Cette froide insensibilité nourrie par notre mère patrie pour le sort des expatriés, de ces expatriés, est glaçante. Nous ne demandons qu'un appel, signal de l'impératif retour aux sources, car ce départ reste un salut toujours choisi par défaut. Tous les témoignages comptant l'exode sont unanimes. Ils qualifient cet acte d'ultime décision, de dernier recours pour une sortie de crise. J'ai écouté les mêmes motifs revenir inlassablement dans les justifications coupables de l'exilé. Le manque d'infrastructures, de perspectives d'emploi, de stabilité nationale explique que les Libanais forment une si grande diaspora. Ce désespoir que j'ai partagé m'a inspiré la mélodie que je vais interpréter pour vous ce soir. Il s'agit d'un moyen humble, certes, mais authentique de retranscrire notre rêve. Que le Liban nous fasse vibrer, qu'il nous happe dans ses inspirations qui deviendront nôtres, qu'il nous déresponsabilise du poids de son inconstance. Beyrouth, tu sais nous séduire, mais tu ne sais pas nous garder. Émerveille-nous, nous n'attendons qu'un signe de toi, nous sommes prêts. Bon, la première caractéristique d'une identité culturelle, c'est qu'elle est imposée à l'enfant plutôt que d'être choisie par lui partout dans le monde. Donc en venant au monde, l'enfant est plongé dans la culture de son groupe, qui lui est bien antérieure évidemment. Le fait le plus déterminant, c'est que nous naissons nécessairement au sein d'une langue, on en a beaucoup parlé ces deux jours, celle que nos parents parlent ou les personnes qui nous prennent en charge, notre environnement. Donc l'enfant, généralement, ne peut pas éviter de l'adopter. La langue n'est pas un instrument neutre. Elle est imprégnée de nos pensées, actions, jugements. Elle découpe le réel d'une manière particulière et nous transmet une certaine vision du monde. Donc le pluralisme linguistique du Liban atteste de sa profonde richesse et diversité. Les membres de la diaspora, la main-d'œuvre étrangère, touristes, les binationaux offrent aux Libanais de nombreuses occasions au quotidien de jongler avec les langues. Un deuxième trait important de l'appartenance culturelle de chacun, c'est que nous possédons tous plusieurs identités culturelles qui peuvent s'emboîter. Donc, par exemple, un Français vient toujours d'une région. D'un autre côté, il partage ses traits avec les Européens. Il participe donc à plusieurs cultures au niveau local et régional français. Donc, d'autre part, au sein d'une entité géographique, les stratifications culturelles sont multiples. Donc, c'est essentiel de voir cela. Et ces différentes identités culturelles ne coïncident pas entre elles, mais elles forment des territoires délimités. Tout individu est donc pluriculturel. Donc, c'est un peu apaisant de penser comme ça. Les jeunes qui décident de se réinstaller au Liban, ils sont nombreux, j'en atteste. J'en fais aussi partie. Donc, sont animés par une profonde ambition, un dynamisme qui sont caractéristiques de tous les nouveaux venus. Mais en tout cas, il se démarque par un esprit entreprenant, une grande capacité d'innovation avec parfois peu de moyens. Le relativisme culturel permet justement une analyse en termes de différence et non pas en termes de hiérarchie du pays d'origine. Il s'agit, à mon sens, du meilleur facteur d'intégration, de vivre sa culture du pays de cœur et de son héritage de sang dans une sérénité qui peut être enrichissante et qui peut justement faire bouger un peu les lignes de la société. Bon, pour ce qui est des coulisses du pouvoir politique, c'est rock'n'roll chez nous. Hein. Alors, comment évoquer justement la société dans laquelle évolue Nour sans parler un peu des coulisses du pouvoir politique. Qu'est-ce qu'elle y découvre, hein, à quoi elle est confrontée? Donc aux bassesses, bien sûr, aux manipulations, aux tractations, peut-être à ce qu'il y a de plus noir ou de plus sale dans l'être humain, son côté machiavélique. Mais il y a aussi ce fameux conformisme religieux, il y a les idées reçues, la tradition patriarcale. Et on a une nécessité au Liban, peut-être un peu plus qu'ailleurs, à exprimer sa citoyenneté à part entière. Le droit à la parole est universel, mais au Liban, c'est un peu difficile parfois en Orient d'exprimer justement cette parole. Donc au Liban, on a une classe politique qui n'est vraiment pas l'exemple à suivre, mais vraiment l'exemple à poursuivre. Aussi, Nour, à peine pénètre-t-elle dans les coulisses du pouvoir, dont elle apprendra les règles ensuite, qu'elle se trouvera prise dans des déboires mystérieux de son héritage familial. Les coulisses de la scène publique sont toujours des synonymes de lieux où le jeu du pouvoir s'exerce de manière assez mystérieuse et en tout cas très occulte chez nous. En tant que juriste, Nour retourne au Liban donc, pour un peu comprendre son monde, l'environnement, et elle entreprend cette démarche dans le respect de ses idées, de ses convictions occidentales, quand même assez progressistes. Et parlant de ça, on ne peut pas ne pas évoquer le statut de la femme aujourd'hui au Liban, puisque c'est Nour finalement. Bon, c'est une problématique tellement complexe. En fait, si le système libanais pour le statut de la femme fonctionnait, il s'exporterait. C'est pas du tout le cas. Donc, on en est très loin. L'idée, en fait, je pense qu'il faudrait dépasser le cadre aliénant culturel, avoir l'audace de redéfinir un peu notre individualité propre, au-delà de cet héritage insatisfaisant et injuste pour la femme. Bon, alors, l'évolution de l'ordre masculin est établie et évolue, évidemment. Donc, il a faussement évolué, cet ordre masculin, en fait, parce que les mentalités ne changent pas tellement. C'est vrai, la jeunesse est plus ouverte. Peut-être qu'en mûrissant, néanmoins, elle pourra s'imbiber des idées des parents et revenir aux acquis ancestraux aliénants. Donc, ça, c'est un risque. L'instauration du suffrage universel direct en 1953 pour les femmes, c'est un fait acquis. Et il faut quand même attendre les années 90 pour voir une vraie émergence d'une classe de femmes actives, indépendantes économiquement. Pour autant, le patriarcat, on ne sait pas s'il est vraiment remis en question ou pas et s'il perd de sa vitesse. Voilà. Bon, une discrimination certaine existe quand même à l'égard de la femme libanaise qui peine à acquérir certains de ses droits les plus fondamentaux. Je vais vous donner un exemple très concret et très choquant. Donc en 96, quand même, le Liban signe la CIDA, ou en anglais, la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes. Bon, et notre pays exploite la possibilité qu'offrent tous les traités internationaux de faire jouer le jeu de réserve. Et du coup, elle amène quand même des limitations à d'importantes applications. Donc concrètement, du droit de la transmission de la nationalité pour une femme à son mari, à ses enfants, ou tout ce qui est droit au niveau de la dissolution du mariage, de la curatelle, de la garde, etc., même le nom de famille. Tout ça, donc, le Liban a apporté un droit de réserve sur toutes ces dispositions. Voilà. Donc, sous l'impulsion d'organisations internationales et d'organisations non gouvernementales actives dans ce domaine, on a quand même de légers progrès qui ont été réalisés, notamment au niveau des allocations familiales ou du congé maternité, mais il y a encore beaucoup de choses à faire. Alors, ce qui est intéressant au Liban, ce qui est triste aussi, je dirais, c'est que une de nos particularités, c'est que tout ce qui est du ressort du statut personnel, donc fiançailles, filiation, tutelle, garde des enfants, etc., c'est aussi réglementé par la religion. Donc voilà. Pour ce qui est de l'art, donc dans ce roman, il y a quand même une grande place qui est accordée à l'art, notamment l'art contemporain. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, je pense que l'art, sous un angle engagé, devient une discipline militante. Et justement, comme on parle de courant littéraire déconcertant, c'est un peu dans la même lignée. Donc, et c'est intéressant de remarquer quelques comme ça flashbacks historiques, des repères, juste des petits repères. Donc on a la théoricienne américaine féministe, Lucy Lippard, de 1937, qui est une grande critique d'art, et qui en 1999 présente une notion d'artiste militant contre les artistes, l'art pour l'art et l'activisme politique. Du coup, la théorie de Gautier, la théorie de l'art pour l'art en prend pour son grade. Donc la théorie du refus de la poésie, philosophique et sentimentale aussi. Quant aux valeurs défendues, donc, dans l'art pour l'art, c'était essentiellement la vertu, la liberté, la beauté. Donc là, tout est remis à plat. Et les artistes militants, parce qu'une société a besoin aussi de ces artistes militants pour évoluer et poser des problématiques en dehors des structures économiques, etc. Donc se tournent au contraire en général vers des positions militantes, donc qui les font bouger les lignes de la société. Justement, nous, dans le livre, alors on suit des expositions de Paris à Beyrouth, c'est de manière incessante, et on parle de nouveaux médiums qui sont abordés, et on se pose des questions, est-ce qu'il y a une internalisation de l'art, est-ce qu'il y a des nouveaux matériaux, oui, et pour aller où, et pour faire quoi. Donc on parle d'une certaine évolution intéressante, et qui touche concrètement le domaine artistique libanais contemporain, avec beaucoup de succès. Du coup, donc, on a les médiums classiques qui sont évoqués dans le livre, et puis on a les nouveaux médiums dont l'art contemporain est très friand, voire les non-médiums. Et c'est très intéressant, ces évocations, ces notions éphémères en construction, d'œuvres en construction, qui appellent à une participation du public et à une réflexion profonde. Donc on a des divisions en médium tangible, je ne vais pas rentrer dans le détail, intangible et technologique, avec cette évolution d'internalisation de l'art. Puis on a l'art qui devient expérimental, par exemple avec le cinéma, avec Matthew Barney, et qui acquiert vraiment un statut artistique à part, donc une reconnaissance, et c'est important cette reconnaissance. Voilà. Alors moi, je vais maintenant vous lire un petit extrait de ceci, et qui parle en fait de quelque chose qui m'amuse beaucoup, c'est un peu la vertu provocatrice de l'art, notamment contemporain, qui a quand même été remis au goût du jour depuis les années 70, qui est un phénomène qui trouve un certain répondant dans la société libanaise. Donc je vous rappelle juste les crucifixions de cadavres d'animaux de Nietzsche, ou le boudin de Michel Journiac fait à partir de son propre sang, les mises en rituel de Gina Payne. Voilà, donc on a toujours des provocations, mais c'est jamais gratuit, on peut être pour, on peut être contre, mais en tout cas, l'idée c'est de mettre à nu des complexes psychiques. Et dans notre société au Liban, on en a besoin justement. Donc je vous lis les œuvres d'Alain, puisqu'on a Michel, notre galeriste, qui fait des va-et-vient incessants entre Paris et Beyrouth, qui profite de l'essor des collectionneurs libanais pour participer un peu à ce dynamisme du marché artistique. Et elle expose Alain qui est un jeune artiste. Bon, c'est un clin d'œil à deux grands artistes que vous allez reconnaître. Du coup, je prends la bonne page quand même. Voilà. Alors, ce qui est impossible de canaliser est l'angoisse inhérente au choix de produire un artiste à la réputation sulfureuse. Le défi principal en de pareilles circonstances est de réussir à l'apprivoiser afin de présenter au public le meilleur de son art. Elle se souvient d'Alain, ce jeune peintre exubérant à l'ego démesuré qu'elle a exposé durant 6 semaines en début d'année, qui lui semblèrent une éternité. Son remarquable travail de spirale tachée par l'intervention de gouttes colorées, écho à l'infini, est rappelé à l'ordre par le titre de ses œuvres, en référence au tourbillon né de la prise de stupéfiants, opium miraculeux, côtoie héroïne salvatrice ou encore extasie divine, tout un programme. Ces tableaux traduisent un vertige de paradis artificiel, offensif, censé rendre plus supportable une existence torturée, subie. Pour compléter ce voyage proposé aux visiteurs, une douzaine de dessins réalisés sur iPad de l'artiste grâce à un stylo spécial l'accompagnent jusqu'à la sortie. Le résultat est une densité de couleurs surprenante, comme une peinture sur papier. Bon, alors vous avez évidemment reconnu, c'est Damien Hirst qui flirte avec l'indécence. Ses premiers spot paintings qui présentent des alignements de points colorés dont le titre rappelle l'univers médical. Et c'est une thématique qu'on retrouve beaucoup dans les installations qu'on retrouvait de Louise Nevelson. D'ailleurs, il s'est inspiré d'elle et il le dit. Et les seconds, c'est les spin paintings qui utilisent à ce moment-là la force centrifugeuse. Donc les toiles de cette série sont de forme circulaire. Spot paintings est donc le titre de cette expérience que l'artiste de 46 ans a commencé à mener en 86 et dont il existe aujourd'hui quelques 1500 exemplaires et déclinaisons quand même. Presque toutes portent des noms inspirés de la pharmacie, du monde médical et prises isolément, ça n'a aucun intérêt, on a l'impression que ce sont des œuvres sans âme, mais c'est l'accumulation qui fait l'intérêt de l'ensemble en fait. Donc le second artiste dont je parlais sur iPad, c'est évidemment l'immense David Hockney, donc figure du mouvement pop art, je ne vais pas vous la refaire. Courant artistique qui trouve son origine en Grande-Bretagne au milieu des années 50. Sous l'impulsion de Paolisi et d'Hamilton, qui le définit lui-même comme un art populaire, éphémère, jetable, bon marché, produit en masse, séduisant, astucieux et qui rapporte gros. Eh oui, l'argent. Donc David Hockney qui utilise la photographie dans ses objets et en 60, il mêle figuration et pop art dans ses toiles et il pose justement une très fine couche de peinture en aplat sur ses toiles, très intéressant à voir. Et du coup, lui, il s'intéresse aux œuvres numériques et expose en 2010 à Paris, à la Fondation Berger Saint-Laurent, ses œuvres réalisées sur iPhone, sur iPad, qu'il met en vente. Donc, c'est intéressant. Du coup, on a l'art digital qui acquiert ses lettres de noblesse avec lui. Et l'expérience esthétique, c'est une rupture avec le monde quotidien. Nous venons d'aborder quand même ce qui offre aura et légitimité à l'art contemporain. Vous allez vous dire, mais pourquoi il me raconte ça depuis une heure? Je vais vous expliquer tout de suite, vous allez voir le rapport. Concrètement, parce qu'il y a une évolution quand même. Alors, en fait, si vous voulez, l'art contemporain qui contribue à la fabrication de codes parfois artificiels, mais ça c'est un autre débat, il y a une adhésion en tout cas massive à ce mouvement, on en parlait avec madame hier, et qui relève parfois du domaine de la foi et qui peut dérouter pour son bien le public. Rappelons qu'après la crise financière de 2008, ça c'est intéressant de constater que les salles de vente aux enchères enregistrent des bénéfices quelques mois plus tard et qu'on a le rapport 2015 d'Art Price, qui est quand même le site internet qui vise à lister de manière compréhensive les œuvres d'art du XVIIe siècle à nos jours, donc qui annonce une croissance de 26% entre 2013 et 2014. Bon, le détournement sémantique par ailleurs ici est réel, donc l'art contemporain offre un avantage sur le concept quand même, hein, plutôt que sur la forme, et le commanditaire agit par un intermédiaire. Par exemple, on a Maurizio Catalan qui se vante officiellement de ne pas avoir d'atelier hein, et qui a juste un téléphone et qui dicte à un intermédiaire son idée à un praticien. En l'occurrence, on a Druet qui est son sculpteur, donc attitré qui est français. Donc l'art conceptuel théorisé par Duchamp destitue un peu la référence européenne. On a le manifeste de Milan que je vous rappelle en 1960 quand même, qui est initié par Rétani, le critique d'art, et qui déclare la peinture morte. Il est français. Donc, il pense qu'il faut prélever les objets de la réalité du temps comme le faisait Duchamp. Et du coup, en 62, les nouveaux réalistes exposent à New York et les artistes américains tels que Warhol sont de la partie. Warhol qui disait quand même « je suis connu pour être connu ». Et on a un transfert de légitimité qui s'opère sous les yeux du critique d'art Rétani. Bon. Alors après la chute du mur de Berlin, la crise financière, donc on a l'art contemporain qui est science de stratégie. Et nous, ça commence un peu à bouillir. dans notre partie du monde. Donc on a le mécénat qui s'agite un peu dans tous les sens, les multinationales qui se servent de l'art contemporain comme outil de communication et qui se refont parfois une bonne image sur le dos aussi. En 2000, on a Christie's notamment qui organise deux départements, celui de l'art moderne, celui de l'art contemporain. On a des œuvres d'art à peine produites qui arrivent immédiatement aux enchères, on n'avait jamais vu ça. On a des œuvres de seconde génération qui recyclent les œuvres de première génération dans la lignée de Warhol en format gigantesque. Voilà. Vous avez les Ballon Dog de Jeff Koons qui sont produits en 7 exemplaires. Et la pièce est quand même à 21 millions d'euros. Voilà. C'est 7 très hauts collectionneurs du marché qui en possèdent donc un exemplaire chacun. Et on a Thierry Herrmann qui est fondateur d'Art Price, donc qui contribue hein, quand même à rendre un peu ce marché un peu plus transparent. Pour survivre, d'ailleurs, on a Aude de Kerios, critique d'art, essayiste et plasticienne, qui explique dans son livre L'imposture de l'art contemporain que l'art contemporain sonne justement la fin du critique d'art au profit du professionnel du marketing. C'est un mouvement vraiment mondial. La journaliste présente l'artiste dans ses déboires, on donne le vécu un peu de l'artiste et on parle même plus de son œuvre. Le marché s'est globalisé, maintenant Paris c'est un peu le showcase, les crins, Berlin c'est le lieu de production, Londres et New York c'est un peu les lieux de place financière, avec beaucoup d'argent qui circule. Et donc je vous renvoie à une phrase de Jean Baudrillard, philosophe français, qui dit que l'art contemporain spécule sur la culpabilité de ceux qui n'y comprennent rien, ou qui n'ont pas compris qu'il n'y avait rien à comprendre. Et là, je viens à la fin du propos, voilà, pour vous dire un peu ce qui se passe au niveau artistique. Et c'est ce qu'on explique un peu dans ce que parle Nour. Les pays émergents, parce que le Liban en fait partie, justement, ont perçu il y a quelques années, et ça, c'est très palpable sur le terrain, depuis 3-4 ans notamment, les dangers financiers de l'Amérique, sans diaboliser du tout l'Amérique, mais les dangers financiers un peu avec la crise, etc., et les retombées. Et du coup, ils ont voulu, depuis vraiment 3-4 ans, faire un plan et remettre des plans stratégiques de développement pour la culture et l'art, et remettre profondément en cause les modèles culturels qui accompagnent ces développements. Donc on a au Liban aujourd'hui, et c'est un peu ce qui est décrit dans le livre aussi, des mécènes qui mettent en valeur les expressions propres à leur identité nationale à travers des musées et des fondations. Et c'est inédit, ce mouvement est vraiment incroyable. Donc chaque pays développe, en tout cas le nôtre participe fortement à ça, à développer ses moyens d'expression et souhaite vraiment les partager avec le reste du monde. Ce qui explique la création récente d'un grand nombre de musées privés à Beyrouth. Voilà. Donc le contenu de l'art, je ne vais pas trop en dire parce que je sais qu'on va en parler demain aussi, mais le contenu de l'art, dans le meilleur des cas, à mon avis, transcende notre monde. C'est un autre monde, plus vrai, plus beau que le nôtre, dont l'œuvre est le reflet et dont nous goûtons les miettes. L'artiste, comme le philosophe, est souvent considéré, dans le sens commun du terme, comme un doux rêveur, parfois. Ce qu'il offre aux autres, aux hommes, c'est le produit plaisant de ses songes, dit-on parfois. Mais à mon avis, l'écrivain doit aussi avoir quelque chose à dire, sinon la littérature devient un simple jeu de langage. Si elle implique un exercice de style, elle ne saurait s'y réduire. Elle teinte les peines de l'auteur, illumine ses joies. L'écriture comble sa solitude et sacralise ses instants de communion. L'écriture colore la vie de l'homme de lettres qui peint des toiles avec ses mots. Une des vérités de l'écriture, si tant est qu'on puisse parler de vérité, c'est l'authenticité profonde de l'écrivain. Il est engagé dans son rapport au langage. Nommer n'est pas innocent. Nommer, c'est choisir. La justification de l'acte d'écrire se trouve dans cette conscience de l'engagement. La force de l'auteur ne se mesure-t-elle pas à sa liberté ? Voilà, Nour vous revient désormais et vous appartient de la faire entrer dans la lumière. Merci.